franceinter.fr.
La mer de glace, le plus grand glacier de France avec ses 7 km de long, l'hôtel du Mont-en-Vert où nous sommes installés ce matin face au pic des Drues, bâtisse édifiée en 1880 qui était accessible à dos de mulet jusqu'à l'arrivée en 1908 du train à crémaillère qui nous a hissé jusqu'ici à 1900 mètres d'altitude, de même que nos invités. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Médecin, chercheur, explorateur, je vous ai vu vous exclamez hier soir au moment où vous retrouviez la mer de glace, cette mer qui rétrécit au fil des ans.
C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'étais venu l'hiver et l'hiver, la neige recouvre tout. On voit pas la différence. Mais dès qu'on arrive là à l'été, au début de l'été, la neige a disparu. On se rend compte du retrait monumental de cette mer de glace. C'était extrêmement rapide. C'était impressionnant, oui.
Avec nous également un glaciologue et géomorphologue. Bonjour Ludovic Ravanel.
Bonjour.
Géomorphologue, c'est-à-dire que vous cherchez à comprendre l'histoire et l'évolution des paysages. Vous avez mesuré à plusieurs reprises ce recul de la mer de glace ici. Hein.
Alors c'est vrai qu'on l'observe, on le mesure et on essaye d'en comprendre les origines, de comprendre les évolutions et de comprendre les effets futurs de ces grands changements finalement qui affectent à la fois les glaciers, les parois rocheuses, la végétation. On a une multitude d'effets ici en haute montagne.
En résumé, elle a perdu en longueur, elle a perdu en épaisseur et elle a changé de couleur, c'est-à-dire qu'on elle est mêlée avec de la roche et donc on n'a plus la virginité, la blancheur immaculée de la glace.
Voilà, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la mer de glace, ça reste ce grand glacier bien blanc, bien épais, bien crevassé. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Néanmoins, le glacier reste bien présent. Comme on explique chaque jour aux gens qui passent ici au Mont-en-Vert, il y a encore 80 mètres de glace sous la gare. Donc le glacier est encore bien là, mais sa physionomie a changé. Il est effectivement couvert de cailloux, de roches, etc. Mais d'une certaine manière, c'est positif pour lui. Ça lui permet de fondre moins rapidement.
Alors on est là, Ludovic Ravanel, sur votre terrain de recherche, le Mont-en-Vert, les Drues, ces Drues violemment remodelé il y a exactement 10 ans, juin 2005, 260 000 mètres cubes de roche se détachent, c'est le pilier Bonatti qui s'effondre, du nom de ce très Walter célèbre Bonatti. Et fameux Walter. Alpiniste italien Walter Bonatti qui a ouvert la voie en 1955. On en voit la trace encore aujourd'hui. Alors là, il y a le soleil qui nous masque la vue des Drues, mais c'est un soleil réparateur pour nous. Voilà, on a cette face légèrement plus claire. Les Alpes partent en morceaux sous l'effet du réchauffement, c'est ça?
Alors, partant morceaux, c'est peut-être une grande expression. Et en tout cas, effectivement, on est en train d'assister aujourd'hui dans les Alpes à des changements vraiment profonds, que ce soit au niveau des glaciers, mais également au niveau des parois rocheuses. Et là, l'exemple des Drues est tout à fait symptomatique. C'est-à-dire qu'il y a 60 ans, ce pilier Bonatti a été ouvert. Et 50 ans après, donc il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, s'est écroulé ce pilier absolument majeur dans l'histoire de l'alpinisme et dans l'histoire aussi de Chamonix, puisque finalement, ces grandes ascensions ont façonné un petit peu Chamonix.
Et vous avez, vous, mené une recherche d'archives photographiques sur les Drues pour voir comment cette montagne avait évolué au fil des ans et même au fil des siècles.
Tout à fait. Pour nous, le massif du Mont-Blanc est un véritable laboratoire. Et dans ce laboratoire, on a des parois encore un petit peu plus intéressantes à suivre. Et c'est le cas des Drues. On a recueilli à peu près 400 photographies depuis la fin du petit âge glaciaire, c'est-à-dire depuis 150 ans, de manière à reconstituer l'évolution de la paroi. Et c'est vrai que 2005, finalement, est la fin d'une série d'écroulements qui affectent la paroi depuis les années 1950. Et à chaque fois qu'on a une période particulièrement chaude, ça se traduit par une grosse instabilité dans la face ouest des Drues.
Et là, on parle aussi de l'effet du réchauffement du permafrost, de ce dont parlait Nathalie Fontrelle tout à l'heure dans le journal de 8h. Hein.
Tout à fait, mais là, on parlait du permafrost de haute latitude. Oui. Or, il y a également du permafrost à haute altitude, c'est-à-dire que les parois, les terrains sont gelés en permanence depuis très longtemps, depuis probablement la dernière période glaciaire. Et aujourd'hui, on est en train de faire fondre, de dégrader de la glace très ancienne qui assure un rôle de ciment pour les parois rocheuses.
Jean-Louis Etienne, vous avez vu dans vos voyages nombreux, vos explorations, des paysages comme ça se transformer au fil des ans, au fil des décennies,
oui,
sous l'effet du réchauffement.
Un exemple surprenant, j'ai traversé l'Antarctique en 89-90, on partait de la péninsule antarctique. Les 600 premiers kilomètres de glace qui étaient accrochés à la roche ont disparu. 600 kilomètres de glace, donc c'est énorme. Ça, c'est au sud, en Antarctique. et en Arctique, c'est aussi spectaculaire. J'ai survolé l'océan Arctique en avril 2010. On s'attendait à voir de la glace partout. Il y a des zones d'eau libres de glace. Donc c'est une évidence. Les régions polaires sont, comme ici, les glaciers sont des acteurs du climat, mais aussi sont des témoins du réchauffement évident, sans discussion. Ouais.
Et on peut avoir aussi, pas seulement des conséquences sur le paysage, mais sur les activités humaines. Ludovic Ravanel, ces éboulements, ces modifications de montagnes, elles menacent les habitants des vallées, elles peuvent menacer ?
Alors, pas directement, mais néanmoins, on a vu des exemples dans la période récente d'événements qui peuvent produire en cascade des risques pour les vallées à travers des coulées de boue, à travers des avalanches de neige. Par exemple, sur le versant italien du massif du Mont Blanc, il y a quelques années, un gros écroulement en plein mois de janvier a déclenché une avalanche de neige qui est descendue jusque dans le fond de la vallée. Oui. Donc c'est pas forcément le processus en tant que tel qu'on craint, c'est parfois ses effets en cascade.
Et il y a 10 ans, quand le pilier Bonatti s'est effondré, je crois qu'il y avait eu un gigantesque nuage de poussière sur la vallée de Chamonix.
Alors, l'essentiel du volume est tombé vers 3h du matin. Donc on n'a pas vu ce grand nuage de poussière. Par contre, le lendemain, tout était couvert de poussière, de gris, à des kilomètres à la ronde, donnant une vision assez particulière du site.
Et Jean-Louis Etienne.
Oui, Nathalie Fontrelle parlait tout à l'heure de ce gain qu'ont les Russes en latitude. Ils pensent un jour, effectivement, faire pousser du blé vers le Grand Nord, mais le permafrost qu'ils font est vraiment une engeance terrible pour les populations du Grand Nord, parce qu'ils sont installés sur du sol qui était un sol cimenté, dur, quoi, par la glace, et aujourd'hui, on voit les routes qui sont chaotiques, les maisons qui sont bancales, effectivement, donc ceux qui sont installés sur le permafrost, effectivement, subissent violemment cette modification de la structure des sols.
Quelles conséquences, c'est l'un des thèmes de notre journée, de notre deuxième journée, quelles conséquences pour la biodiversité ?
Jean-Louis Alors, il y a des indices ici en montagne du réchauffement qui monte petit à petit en altitude, avec des espèces d'herbes, des végétaux qui s'habituent petit à petit à cette montée en altitude. Donc ça, c'est plutôt un témoin, si vous voulez, sur la biodiversité. Ensuite, la biodiversité, elle est touchée essentiellement parce qu'on touche à une part de la biodiversité qui est quasiment invisible, cette petite partie de biodiversité qui représente 90% du vivant, qui sont les vers, qui sont tout ce qui se passe dans les sols. Et là, vraiment, on touche les petits trucs qui font, parce que toute la vie se développe sur cette biodiversité invisible.
Ludovic Ravanel, je crois qu'après la matinale, après cette émission, vous serez rejoint par une classe.
Tout à fait.
À qui vous allez montrer le paysage, lui faire comprendre les effets du réchauffement climatique sur les montagnes. Qu'est-ce que vous montrez à ses enfants en priorité? Qu'est-ce que vous essayez de leur apprendre?
Le Mont-en-Vert, pour nous, c'est un endroit absolument fantastique, non seulement avec ce paysage, mais en plus avec les dynamiques que l'on y voit. C'est un véritable terrain d'étude pour nous, mais également un terrain sur lequel on peut sensibiliser les gens, et en particulier les jeunes générations, à ces évolutions. Parce que finalement, les massifs alpins, non seulement ils sont très sensibles au réchauffement climatique, de par la présence de glace dans les glaciers, de par la présence de glace dans les fissures de la roche, mais c'est également un secteur où le réchauffement est 2 à 3 fois plus rapide qu'à l'échelle de la planète tout entière. Donc on a des évolutions majeures, et c'est un site tout à fait rêvé pour expliquer ces évolutions à toutes les générations finalement.
Bon, et puis Jean-Louis Etienne, c'est un paysage magnifique quand même, oui, c'est grandiose, oui, ce qu'on a ici. Oui. Les grandes jorages, j'en parlais il y a quelques instants avec ces neiges éternelles, ce pic
absolument magnifique.
Des drues qui symbolise la montagne.
C'est un centre mondial d'alpinisme, quoi. Ouais. Il faut quand même dire que ce massif est absolument magnifique, unique en Europe, très précieux dans le monde, quoi. Réunit des alpinistes qui viennent du monde entier, quoi. Toute l'histoire, la grande histoire de l'alpinisme s'est écrite ici, quoi.
Jean-Louis Etienne, on vous retrouve dans quelques minutes. Ludovic Ravanel également. Le soleil s'est invité dans notre émission exactement à 8h19 au moment où nous démarrions cette séquence. On vous retrouve tout à l'heure en compagnie du cinéaste Luc Jacquet qui signe le portrait scientifique d'un grand monsieur, Claude Lorius. Ce sera au cinéma dans quelques mois. C'était en clôture du festival de Cannes, La glace et le ciel. Évidemment, dans un instant, la revue de presse.